Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps pour commencer l'année dans les starting blocks? La sortie de Rudder 8, des rachats en pagaille comme avec VMware ou Isovalent, et ça bouge pas mal chez HashiCorp. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils, et aujourd'hui, on en a pas mal. Alors, avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Nida. Bonsoir, Nida.
Bonsoir, Christophe.
J'ai aussi Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Salut tout le monde.
Et enfin, Damir. Bonsoir, Damir.
Bonsoir à toutes et tous.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bonne soirée. En plus, c'est la première fois qu'on se voit en cette année, donc je vous souhaite à tous les trois une excellente année, pleine de projets et de réussites. Et justement, comme tous les débuts d'année, alors j'ai une annonce à te faire, toi qui écoutes le podcast. Toutes les années, je fais ce qu'on appelle un bilan, tu connais. Et cette année, j'ai fait le bilan de l'année 2023 pour les compagnons du DevOps. Et ça se passe sur la chaîne YouTube. Et j'ai fait un live hier. Enfin, en l'occurrence, quand on enregistre cet épisode de podcast, c'était hier. Mais quand tu vas l'écouter, c'est il y a plusieurs semaines. Et donc, si tu te demandes combien de temps ça représente de gérer les compagnons du DevOps et tout ce qui va avec, si ça rapporte des sous ou quels sont les plans et les idées pour l'année qui vient, eh ben, il faut aller écouter et aller voir le live. Ça dure 1h30 et je te partage tout avec transparence puisque ça m'anime, tu le verras. Tu pourras en plus laisser des commentaires là-bas pour me dire ce que tu en penses. Le lien justement du live, il est dans la description et on va pouvoir passer à la traditionnelle section du courrier des auditrices et auditeurs. Et justement, en parlant de YouTube, vous avez été nombreux à me demander pourquoi je supprimais des commentaires YouTube avec des liens. Alors, il faut savoir que je supprime pas les commentaires YouTube. A priori, j'en avais pas non plus dans les messages indésirables, mais j'ai aussi remarqué que les commentaires disparaissaient. Parce que plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. J'ai fait des tests avec mon compte perso sur la chaîne YouTube, et en fait, je me suis aperçu que YouTube supprime automatiquement les messages au bout de quelques secondes dès qu'ils contiennent des liens. Donc, j'ai remonté le problème à YouTube, mais pour l'instant, il n'y a aucune solution. Et je suis pas le seul à être impacté, puisqu'il y a plusieurs chaînes YouTube, notamment Notech que je suis, qui a aussi fait passer ce message-là. Donc, si tu veux laisser un lien dans les commentaires, t'as pas le choix, tu peux pas le faire. Le seul moyen, c'est de venir sur le post du forum, puisque chaque vidéo et chaque podcast a un post sur le forum, donc c'est une bonne raison pour venir t'inscrire sur les compagnons du DevOps, donc c'est compagnons-devops.fr, sinon t'as le lien en description, un peu de partout, enfin, bref, tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, tu devrais trouver. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un vrai message. Et j'ai un message de Curdy34, il nous a laissé un message sur Apple Podcast, il nous dit « pertinent, 5 étoiles, je recommande ce podcast pour les sujets pertinents qui y sont traités » et l'engagement des intervenants, je rajoute et intervenantes, on imagine le travail réalisé en plus d'une activité professionnelle dans le milieu ingrat de la création de contenu. La doctrine DevOps y est utilisée pour l'amélioration continue, et je ne peux qu'approuver. Bon courage et merci pour votre travail. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est merci Curdy pour tes encouragements. En effet, c'est extrêmement dur d'allier à activité personnelle, enfin professionnelle et création de contenu. Surtout quand on n'en vit pas, c'est des heures et des heures en plus. Et je pense que certains ici pourront nous en parler aussi, puisque on a une streameuse et un autre podcasteur qui a aussi un podcast et un blog, puisque Damir, tu as un blog. Donc, je vais vous laisser la parole à tous les trois. Et je vais commencer par Nida pour nous dire à quel point c'est compliqué de créer du contenu en plus d'une activité professionnelle.
Oui, d'abord, bonne année à tout le monde, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est entre le boulot, pour faire des streams, souvent, c'est 3 à 4 fois le temps, si ce n'était pas 10 fois le temps de mon stream qui est fait en préparation et au niveau veille, donc ça prend énormément de temps, plus après entre plus la publication de mon compte Twitter qui est aussi assez chronophage, et j'ai même arrêté de faire mon blog par faute de temps, et aussi lié à mon petit souci 10 qui est vraiment très compliqué pour l'écrit. Voilà.
Ouais, je confirme que c'est assez long. Moi, j'ai un peu les mêmes soucis 10 que toi, ce qui prend beaucoup de temps, du coup, parce que je dois passer beaucoup de temps sur la relecture. Je dois faire relire par d'autres personnes, ce qui n'est pas toujours simple. Et du coup, ça prend du temps. Après, moi, je me mets pas de pression pour les articles, pour ça que je publie relativement peu, même si j'essaye d'être un minimum régulier. Mais oui, c'est des activités qui prennent pas mal de temps, et selon les sujets, moi ça dépend vraiment des sujets. Je peux avoir des articles qui soient relativement rapides et qui vont me prendre peut-être 7-8 heures, comme je peux avoir des articles beaucoup plus longs et qui me prennent beaucoup plus d'heures. Ce qui est quand même un temps assez conséquent. Mais bon, je regrette pas. Et pour le podcast, bon, le podcast, c'est quand même le format qui me prend personnellement le moins de temps. Quand on en fait, on enregistre, on n'a pas tellement de préparation, et le montage, quelque chose qui se fait relativement rapidement une fois qu'on a les bonnes recettes et son Audacity bien paramétré, 2-3 applis et c'est fait.
Et toi, Nicolas, tu crées du contenu ou tu veux réagir sur ce commentaire ?
Oui, bah déjà, meilleurs vœux à tout le monde. Et c'est effectivement, créer du contenu, ça prend du temps. C'est une manière différente de faire de la veille aussi. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir le faire. J'ai tenu un blog pendant quelques années, mais par manque de temps, j'ai effectivement arrêté de l'alimenter. Après, c'est comme le dit Damir, quand on est bien préparé, ça va vite. Et en fait, l'écriture, c'est à peu près pareil. C'est quand on a l'habitude d'écrire des articles, on a des mécanismes qui nous permettent d'aller quand même beaucoup plus vite que d'habitude. Donc le premier article va prendre quelques heures à écrire, celui d'après un peu moins, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, moi, j'ai plusieurs idées d'articles de blog, quelques-uns en cours d'écriture, mais pas le temps de les terminer. Et après, c'est en fonction de l'actualité. Est-ce que c'est réellement pertinent de parler d'un outil que plus personne n'utilise depuis quelques années ? Donc, c'est une rigueur à avoir aussi pour son écriture. Mais si vous avez envie d'essayer, lancez-vous, vous verrez, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on apprend énormément de choses. Voilà.
En effet, il faut se lancer pour produire du contenu. Alors moi, je ne sais pas si j'ai une dysorthographie ou quoi, mais j'ai énormément de mal à écrire en français. Je fais beaucoup de fautes et je prends du temps énormément pour écrire. Donc, je partage vos problèmes. C'est pour ça aussi que j'écris plus d'articles de blog, puisque au début, j'avais commencé par ça. Et je préfère le podcast, même si ça prend du temps, puisque un épisode de podcast comme Actu DevOps ou Radio DevOps, ça prend entre 8 et 15 heures de recherche, production et post-production compris, annonce sur les réseaux sociaux, comme le disait Nida. C'est beaucoup de temps pour faire connaître un podcast, c'est très long. Et pour le coup, moi, je vais essayer un truc cette année, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer d'utiliser l'IA et les transcripts IA pour m'aider à écrire des articles de blog. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore.
Après, si je peux me permettre, ça peut être aussi une manière de s'améliorer. Moi, je sais que écrire des articles, ça me prend du temps, mais ça me force des fois à me reposer les bonnes questions, entre guillemets, à refaire une démarche d'écriture de manière plus posée. Parce que quand on répond sur Slack, sur Discord, etc., on va pas prendre 10 minutes pour réfléchir à comment tourner bien le truc. On va pas se mentir, qu'on va faire un peu bourrin. Donc, c'est aussi l'occasion de se poser là-dessus, quoi.
C'est bien ce que tu dis, parce que c'est aussi pour ça que j'aime le format forum par rapport au format chat. Je trouve qu'il permet de se poser plus facilement que le format chat. Je sais pas ce que t'en penses, Damir.
Bon, ça dépend. Moi, oui, ça dépend. Dans l'idée, oui. Après, je pense qu'il y a une question... je vais faire mon vieux con, hein, mais il y a peut-être une question générationnelle aussi. Si tu mets des gens qui n'ont pas connu les forums de l'époque, que tu les mets sur un forum, est-ce qu'ils n'ont pas tendance à faire des réponses un peu plus courtes et un peu plus à la Discord, entre guillemets? C'est, je pense, un gros débat qu'on pourrait avoir sur ça.
Je confirme. Je confirme que c'est une approche qui est totalement différente, mais qui est complémentaire. Moi, j'ai commencé avec les newsgroups, donc qui est une logique un tout petit peu différente des forums, mais et chaque génération a ses outils et ses façons d'utiliser.
Oui, ça nous rajeunit pas tout ça, vive les newsgroups. Bon, donc tu l'auras compris, toi aussi tu peux nous laisser un message. Alors tu peux nous laisser un message sur Apple Podcast, il y en a pas mal, sur Podcast Addict ou YouTube. Et d'ailleurs, j'ai un message à passer à la commu de Podcast Addict. Mais où êtes-vous? Parce que en fait, j'ai pas de message depuis novembre 2022. Où es-tu passé si tu es sur Podcast Addict, ce super outil de d'écoute de podcast? Moi, j'écoute que mes podcasts là-dessus. Moi, je suis super content. Donc, si tu es sur Podcast Addict, manifeste-toi, laisse des commentaires là-bas. Bon. On attaque vraiment du coup les news et c'est Nida qui commence, qui va nous parler d'un outil que je n'ai pas encore testé, mais à chaque fois que j'en entends parler, j'ai envie de le tester.
Donc je vais vous parler de Rudder. Ceux qui me suivent sur Twitch ou Twitter savent que je suis un petit peu relou avec cet outil-là, parce que j'en parle beaucoup. C'est un outil que j'apprécie énormément. Et ils ont sorti début novembre une nouvelle version qui est la version 8, qui apporte des améliorations qui sont plus ou moins importantes. Et celles qui ne sont pas notées, c'est la prise en charge de nouveaux OS, comme Debian 12, qui sur Rudder 7 n'était pas pris en compte, et parce que l'agent Rudder fonctionne avec un système d'agent et détecte la version de l'OS pour savoir si c'est compatible ou non. Donc cette version 8 est vraiment importante sur ce côté-là pour les nouvelles versions du monde Red Hat ou au niveau de Debian. Dans l'interface, il y a des choses qui sont très intéressantes comme les filtres de conformité, ce qui permet de faire un filtrage des messages d'erreur ou des succès. Avant, on avait tout en un bloc, et ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité dans l'interface, de savoir où on a nos soucis sur nos règles. Il y a dans les nouveautés qui sont très intéressantes, il y a le micro-patching Windows, donc là-dessus, on va pas du tout remplacer le système de mise à jour de centralisé fourni par Microsoft WSL. Là, ça va nous permettre d'appliquer des patchs spécifiques des KB de Microsoft sur des serveurs Windows, qui est vraiment très très pratique si vraiment on a besoin de faire une campagne de patch très rapidement, et pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup de Windows et pas forcément une licence WSL, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment avoir un impact très fort. Il y a tellement de nouveautés. Il y a une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut créer les règles de Rudder non plus uniquement via l'interface utilisateur, mais on peut les faire directement en YAML, ce qui peut être très pratique pour quand on fait plusieurs règles. Ce qui va nous permettre de faire des déclinaisons beaucoup plus facilement. Et donc c'est assez pratique. C'était très demandé par la communauté de Rudder. Bon, moi, c'est pas trop. Le YAML, c'est pas trop ma tasse de thé, pour être honnête. Donc ça, je laisse ça aux autres.
Alors moi, je me lance avec une question, si les autres n'en ont pas pour l'instant. Du coup, l'arrivée du YAML par rapport à l'interface web, c'est le début ou pas d'une centralisation? Je vois que ça s'appelle des techniques, justement des techniques dans un dépôt Git. Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu dois quand même encore écrire ton YAML dans l'interface graphique ou alors à travers une API? L'idée étant de pouvoir, en mode GitOps, pouvoir centraliser ton référentiel dans un dépôt Git.
Malheureusement, je n'ai pas testé, donc je peux pas y répondre. Il faudrait que je leur demande, parce que je suis en contact assez souvent avec l'équipe. Pour moi, voilà, c'est pas une fonctionnalité que moi j'attendais en priorité. Je sais que la partie YAML, pour le moment, c'est on la conçoit et puis on copie le bloc via l'interface graphique. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite déjà pour la création de certaines règles. Je parle de règles, mais après, voilà, c'est les techniques. Il y a le jargon du produit.
Bon, ça sert à d'évoluer du bon sens, en tout cas. Mais c'est vrai qu'un peu comme Christophe, je pense que moi, j'attends un peu beaucoup de cette partie... on va dire un peu plus orienté description dans des fichiers, parce que les interfaces web, je trouve vraiment ça contre-productif pour ce genre de choses. Moi, c'est une horreur. Donc de pouvoir au moins le faire en YAML, c'est déjà un premier pas. Après, à terme, si on peut soit, comme disait Christophe, avoir du GitOps avec possiblement qui va pool en fait un dépôt pour faire de la réconciliation auto, ça pourrait être top. Ou même si on pouvait lui donner, même si on peut du push en fait des infos, ça serait déjà pas mal. Moi, les compiler ou autre et dans une CI et pouvoir lui envoyer, ça serait déjà un premier pas. Mais pour l'instant, moi perso, ce qui m'a toujours repoussé dans l'outil, c'est le côté très clic-clic, très clicodrome, qui m'a renvoyé des gros PTSD de l'époque où je faisais du Windows et j'avais la moitié de l'équipe qui passait leur temps à faire du RDP sur des serveurs de prod pour aller faire des actions, ce que je ne supportais pas. Bah, pourtant, c'était pas faute de leur expliquer qu'il fallait pas faire comme ça, hein, mais c'est le genre de truc qui, je trouve, qui aujourd'hui me paraissent plus gérables, quoi.
Après l'interface est très bien pour la partie quand on crée des règles en masse, là clairement le YAML est vraiment un gros plus. Après c'est chaque personne voit sa façon d'utiliser les produits. Après comme Ruder peut s'interfacer aussi avec Ansible, ce qui permet déjà de on peut faire des On peut pallier certains manques, certaines choses assez facilement. Là, je suis juste en train de chercher dans la documentation si je vois s'il y a la partie Git.
Faudrait que je teste si on peut mettre avec Ansible. Le vrai problème, au-delà du côté clic-clic, c'est que quand on parle de... On veut des fichiers, des flat files ou autre, que ce soit du YAML ou whatever, on peut même mettre du code. Demain, tu me dis, tu fais des trucs en Go, pourquoi pas? Mais le vrai intérêt pour moi, c'est derrière, c'est toutes les utilisations de Git, quoi. C'est de pouvoir faire du review, c'est de pouvoir aller voir dans l'historique. Moi, tous les jours, vraiment, je vois un truc sur un serveur qui correspond pas à ce que je pensais. Première chose que je vais dans l'industrialisation, je regarde la ligne. Mon éditeur, il me dit c'est tel commit. Je clique dessus, j'ai le message de commit, le contexte. 80% du temps, ça répond au problème. Si la personne est encore là et que le commit est pas trop vieux, je peux même lui poser des questions. Des chances qu'elle me donne des infos dessus, quoi.
Là, je viens juste de faire une recherche dans la doc, donc il y a bien un lien qui est fait pour manager certaines ressources de Ruder avec Git ou GitHub, GitLab.
Ça sera testé.
Bon, comme moi, c'est pas vraiment mon. Hop, donc ça fait même les fichiers de conf de façon globale, il n'y a pas que les... Donc on peut vraiment tout synchroniser via Git et c'est va falloir que je teste aussi de mon côté.
Ça devient intéressant, là.
Nicolas, tu as un avis là-dessus?
Je suis en pleine réflexion sur ce sujet-là parce que vous comprendrez un petit peu pourquoi tout à l'heure je me pose de plus en plus de questions par rapport à le salt sack que j'utilise au quotidien. Donc pourquoi c'est intéressant de partager les recettes, c'est aussi quand on a des environnements différents. Moi je travaille sur pas mal d'environnements de prod et je mutualise toutes mes recettes. Je vais les appeler comme ça pour rester relativement générique, mais que ça soit de l'Ansible, du Salstack ou autre chose, j'ai envie de travailler qu'une seule fois et de pouvoir le partager facilement d'un projet à un autre. Et le fait d'avoir ces recettes transférables facilement via Git, ça me permet de travailler plus efficacement et plus rapidement. Après, Rudder, le côté qui est intéressant, c'est sa vitesse d'exécution. Il me semble que pendant un moment, c'était basé sur CFEngine. Je ne sais pas si ça l'est toujours. A priori, oui. Et CFEngine était réputé pour sa rapidité d'exécution. Et Rudder l'utilise pour ça, pour faire de la mise en conformité. Donc quand vous avez des environnements avec une sécurité importante, Rudder peut aller vérifier toutes les X minutes, mais chez eux, c'est toutes les 5 ou toutes les 10 minutes, je ne sais pas. Vous pouvez récupérer l'état de votre parc dans son intégralité. Et soit vous pouvez faire de l'audit, donc il va vous remonter quand le parc n'est pas en conformité, mais il peut aussi écraser la conf purement et simplement. Donc si un attaquant est venu changer un droit sur un fichier, bah, vous allez lui pourrir un petit peu la vie en remettant les droits systématiquement protégés, et ainsi de suite. Après, c'est un projet qui est aussi français. Il y a une partie open source. Donc, si vous regardez un outil de gestion de configuration, bah, pour être un petit peu chauvin, qui est mon côté de vouloir faire travailler les copains, bah, vous pouvez peut-être regarder d'abord cet outil-là pour voir si ça convient. Et un autre intérêt, c'est que si vous avez du multiplateforme avec du Windows dans votre parc à gérer, comme c'est relativement natif chez eux, c'est peut-être intéressant de commencer par là. Et une interface graphique, même si moi je m'en passe au quotidien, mais je m'en passe par défaut parce que j'ai pas pris le temps de l'installer dans la partie Salstack. Le fait d'avoir une interface pour montrer à d'autres utilisateurs, c'est toujours pratique. Mais aussi pour pouvoir avoir un état très rapide de votre parc. Moi, j'aimerais avoir un outil qui me dit il y a telle et telle machine qui sont plus alignées par rapport à la configuration, parce que je passe pas forcément mon temps à réappliquer les recettes sur l'intégralité du parc. Voilà.
C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup avec un module payant qui est la mise à jour des machines Linux, qui permet de faire un état. Je peux avoir un check CVE, donc savoir toutes les failles qu'ont les serveurs, ce qui est très 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 pratique pour moi. En termes, je suis plus orienté un peu plus sur la sécurité. Et pour moi, c'est un outil qui est d'audit qui est vraiment très intéressant. Et je peux programmer des campagnes de patch des systèmes d'exploitation Linux, ceux qui sont supportés par Rudder, parce que toutes les distributions Linux ne le sont pas. Et ça me aide d'avoir un état des lieux, de savoir si des patchs ne sont pas passés et pouvoir faire même des rollbacks de patch de sécurité, ce qui est très important, moi, de mon côté, dans ce que je recherche dans le produit.
Ben c'est super intéressant. Je note quand même qu'il y a un outil qu'on n'a pas cité, alors qu'on utilise son vocabulaire depuis tout à l'heure, qui est Chef, puisque recette, ça vient de chez Chef. Mais voilà. Alors, on va passer à la suite. Et la suite, c'est le sponsor du mois. Et ce mois-ci, c'est mon service de mentorat de groupe, l'accélérateur GitLab. Alors, si tu fais du code et que ton objectif, c'est de devenir plus efficace quand tu crées et que tu déploies une application, que tu veux te sentir à l'aise avec GitLab, que tu ne veux plus passer des heures et des journées à faire de la veille ou à tester GitLab de fond en comble, bref, que tu veux progresser dans ta carrière, devenir plus productif et avoir un impact dans ton entreprise, j'ai la solution pour toi. Cette solution, c'est l'accélérateur GitLab. L'accélérateur GitLab, c'est un programme de mentorat sur mesure spécialisé dans Git et GitLab. C'est donc 2 heures de mentorat de groupe tous les 15 jours pour maîtriser GitLab et avancer sur tes projets. Un mentor, aujourd'hui, moi, mais bientôt plus de personnes. Et ce mentor, il s'assure de te faire prendre les bons raccourcis sur GitLab, justement. Un groupe de 5 personnes réunies en fonction des problématiques communes que ces personnes ont pour que tu puisses bénéficier de l'entraide de tes pairs. L'idée, c'est de concevoir des promotions qui soient pas non plus complètement hétérogènes. C'est aussi un cadre bienveillant pour faire de l'introspection, échanger et nouer des liens pour accélérer ta carrière. Et ensemble, on va former en plus une communauté pour dire au revoir à tes problèmes. Puisque, en plus, tu auras accès à un forum de discussion privé avec les 5 membres de ton groupe pour échanger 24 heures sur 24 si t'es hyper chaud sur tes challenges et tu seras accompagné par ton mentor. Tu auras aussi accès à un autre forum de discussion privé avec tous les membres de toutes les promos de l'accélérateur GitLab avec tous les autres mentors. Les vidéos replay des sessions, évidemment, pour réviser ou même pour les voir si t'étais pas là parce que il se peut que t'aies un empêchement. Les transcripts de sessions faites par intelligence artificielle en plus des notes de ton mentor. Bref, tout ça, c'est l'accélérateur GitLab et bien plus encore parce que ça va évoluer. Donc, si tu veux aller voir la page du programme, tu vas sur bref.lydra.fr/accélérateur-GitLab, mais le lien est en description, tu pourras le trouver. Alors, on va parler d'un rachat et d'un gros rachat, puisque quand j'ai vu le titre, je me suis dit non, c'est pas possible. Nicolas, c'est à toi qui l'advient de parler de ce rachat.
Ouais, donc ça a eu lieu l'année dernière en 2023. Donc VMware a été racheté par Broadcom. Donc Broadcom, ça paraît un petit peu bizarre qu'ils aient racheté VMware, puisque pour rappel, ils sont surtout fondeurs de puces. Il me semble même que si vous avez un téléphone dans la poche, il y a de fortes chances qu'il y ait une puce Broadcom dedans. Ou alors je me trompe de nom, mais bon. Ça a été une petite acquisition à 61 milliards de dollars, donc ils avaient des sous dans la poche, comme quoi avoir Apple comme client, c'est pas mal. Et avec ça, il y a plusieurs nouvelles qui viennent, donc on s'imagine bien que pour 61 milliards, ils s'attendent pas à les laisser vivoter dans leur coin. Donc ils ont changé de patron, je crois, ils ont mis un patron de Broadcom, et dans les premiers trucs qu'ils ont fait, donc bon, ils ont fait une réorg en splittant la boîte en 4 entités, machin, donc ça, on va passer là-dessus. Par contre, pour moi, il y a 2 trucs qui m'inquiètent, c'est déjà pour ceux qui font du VMware, donc il y avait 2 types d'abonnements, mais globalement vous pouviez acheter votre licence pour votre serveur et une fois que la licence était payée, vous étiez parti pour X années avec cette version-là. Là maintenant c'est fini, ils vous incitent même à vous convertir sur de l'abonnement, donc c'est le nouveau mode de vente. Donc vous prenez votre abonnement et vous avez le droit d'installer toutes les versions que vous voulez dans leur catalogue disponible. Alors bon, j'imagine que c'est la suite VSphere et compagnie. Et donc à terme, on ne pourra plus du tout acheter les licences perpétuelles. Donc si vous en avez, gardez-les si vous voulez ne plus payer. Par contre, je trouve que ça c'est quand même une bonne nouvelle, puisque malgré le fait qu'on puisse voir ça comme du racket, ce qui vient avec, c'est aussi la possibilité d'avoir toujours une version à jour. Et on en avait parlé il y a un an ou deux, il y avait une grosse faille dans la partie VMware, et on s'était retrouvé avec plein de serveurs qui avaient été piratés. Donc grâce à cet abonnement-là, vous aurez automatiquement les toutes dernières versions de la suite VSphere. Après, la deuxième partie qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est la partie open source, puisque VMware avait quand même quelques logiciels qui étaient en open source. Alors, je me souviens plus des autres, mais il y a notamment SaltStack, qui est l'outil de gestion de configuration que j'utilisais, et il a déjà pâti du rachat par VMware parce que ils ont fait des trucs un petit peu à la MySQL quand ça avait été racheté par Oracle, et le résultat est pas terrible. Mais bon, ça continue à fonctionner. Il continuait à y avoir des mises à jour. Il n'y avait pas vraiment de volonté de le sortir du modèle open source. Mais avec ce rachat par Broadcom, je me demande bien ce que ça va pouvoir donner. Voilà. Et toi, Nida, qu'est-ce que tu penses de ce rachat-là? Tu es contente que tous tes serveurs VMware passent en abonnement?
Je vais avoir un double discours. Un, ça m'ennuie très fortement de ne plus pouvoir avoir le soft physique perpétuel. Mais de l'autre côté, c'est une très bonne chose au niveau sécurité. Parce que ça va pousser les gens à investir. Parce que dans la politique de VMware, on n'installe pas VMware en professionnel. On n'installe pas ça en claquant des doigts, en achetant n'importe quel matériel. Peu importe le constructeur de solutions de virtualisation, ils ont tous le même truc, du matériel certifié. Et donc, c'est des coûts qu'on a forcément avec le matériel. Et la licence ne coûtait pas si cher que ça. Au final, c'est le support qui coûte cher. Et le fait justement que ça, qu'on puisse plus l'avoir, ça nous évitera de tomber sur des hyperviseurs en VMware 5.5, voire en 6, qui sont in of life depuis bien longtemps. Et ça, c'est des vrais problèmes de sécurité. Et c'est justement la faille que tu évoquais, problème de sécurité tout à l'heure. Et c'est un vrai problème. Et donc, c'est un mal pour un bien d'une certaine manière. Et de l'autre côté, est-ce qu'il faut s'offusquer puisque les gens payent bien des services cloud sans jamais rien avoir en propriété derrière?
Je suis assez d'accord sur le fait que les licences en passage en abonnement, c'est quelque chose, je pense déjà que ça a généralisé. Moi, ça ne m'étonnerait pas que Microsoft le fasse aussi très rapidement, de ne plus faire de licences perpétuelles. Je pense qu'en soi, niveau sécurité, c'est une bonne chose. Après, c'est un problème qui est plus comptable qu'autre chose. Ce qui va peut-être aussi se passer, c'est que beaucoup d'entreprises n'en voudront simplement pas, et ça va peut-être développer un peu d'autres alternatives, notamment pousser un peu les alternatives open source. Donc ça, je suis curieux de voir si ça va avoir un effet de marché là-dessus, parce que pour l'instant, quand même, j'ai l'impression que VMware était quand même bien présent, même pour des petits clients, entre guillemets. Donc à voir si ça va avoir un vrai effet. Pour ce qui est des autres projets, c'est un peu tout le problème, tu parlais de Salt, un peu tout le problème pendant les rachats, c'est qu'on n'a pas de garantie de la vision, on va dire, de la bonne entreprise qui a racheté ou qu'elle va respecter la vision précédente. Donc, est-ce qu'il faut directement switcher? Je pense pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir être suivi. Après, je me rends pas compte de la communauté Salt à quel point elle est entre guillemets indépendante ou pas. Est-ce que ça va forquer? C'est aussi une vraie question, hein. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre ça. La news est intéressante. Même moi, le modèle par abonnement, dans l'idée, me dérange pas. Mais je sais que pour beaucoup d'entreprises, ça va devenir aussi une vraie problématique. On parlait tu faisais la comparaison avec le cloud, Nida. On parlait beaucoup de FinOps. Est-ce qu'on va pas avoir à un moment ce truc de se dire, on paye 200 abonnements pour tous les services soft, etc. Comment on optimise ça? C'est aussi une vraie question. Parce que ça va très vite, surtout quand ça se cale avec le nombre d'utilisateurs ou le nombre de charges. C'est un modèle qui, à mon avis, peut poser problème si tout le monde le fait. Un peu comme vos abonnements Netflix, hein, tout le monde était d'accord pour payer l'abonnement Netflix quand il y avait qu'eux. Maintenant, quand il y a Disney, quand il y a Netflix, quand il y a OCS, quand il y a machin, ça commence à faire chier les gens. Donc je pense qu'à un moment, les entreprises vont elles aussi essayer d'optimiser ça et couper dans le lard. Pas toutes, mais une partie.
Ouais, alors
je voulais juste réagir parce qu'en fait, c'est une transition toute trouvée pour un truc, parce que tu parles d'abonnement Netflix et justement, je suis en train de regarder si je vais pas rendre mon abonnement Netflix pour prendre une offre packagée, puisque MyCanal fait une offre packagée. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, quand tu cumules les abonnements, au bout d'un moment, ça fait très très cher, et pourquoi pas avoir l'émergence d'offres packagées qui coûteraient moins cher au final. À voir. Moi, je suis assez surpris d'un truc, c'est 61 milliards de dollars, ça me paraît assez énorme pour pour, je sais pas combien a été le rachat de Red Hat, qui était déjà très gros, mais je crois que c'était moins. Et ça me paraît beaucoup. Et moi, je suis d'accord avec vous sur, ouais, il faut en effet payer des licences, parce que de toute façon, quand on va dans des projets libres, on prend, généralement, quand on est pro, des licences support. Donc, on a déjà l'habitude de payer des licences, donc pourquoi pas. Le truc, c'est que si t'es une trop petite boîte, non, ça y est, je me suis perdu. Je suis vraiment, je vais reformuler ça dans ma tête. Je vais laisser Nicolas parler et je reviens après.
Ouais, alors moi je suis revenu de l'abonnement MyCanal parce que je commençais à trouver que ça coûtait beaucoup trop cher, mais bon. Pour en revenir à la partie investissement versus je sais plus quoi, c'est quand même un problème vraiment très français où tout ce qui est matériel et licence, c'est immobilisé. Donc vous rentrez ça dans votre plan comptable, c'est un investissement, ça s'amortit sur 3 ans, etc. Et en fait, c'est une manière de gérer sa compta. Et finalement, le fait de passer sur du cloud, c'est une manière différente de gérer les finances. Mais c'est aussi une manière de lisser son budget sur plusieurs années. Et si on n'est pas sûr de ce qu'on va vouloir avoir à court terme, ça permet de démarrer un petit peu plus facilement en douceur, puisque l'abonnement, en théorie, il doit pouvoir se résilier à la fin de l'année, alors que la licence, quand on va l'acheter, il va falloir l'amortir sur 3 ans. Tu voulais dire quelque chose, Nida ?
Oui, je voulais juste revenir sur un détail, c'est que VMware, donc on achète les licences et après on prend aussi du support. Quand on achète, on a un support, je me souviens plus, je crois que c'est 2 ou 3 ans, ou alors c'est 1 année et c'est renouvelable. Il faut faire très attention à ça. Et si au final, je vais plutôt parler différemment, moi qui suis en infra, quand on achète quand on prend du Windows Server, au final, on ne paye pas les licences, on paye du support. Les licences, c'est ce qui coûte. Le soft coûte rien. Ce qui coûte réellement, c'est le support, le SAV qu'on a besoin pour se décharger en termes de responsabilité, pour pouvoir avoir sur quelqu'un qui tapait. Et on préfère que ce soit un prestataire.
Alors ça, c'est encore une histoire de gros sous, c'est qui va payer les pénalités en cas d'incident au client final. Donc effectivement, quand on a des contrats de support, ben, on va reporter ça sur le maillon le plus faible de la chaîne. Alors si vous prenez des contrats de support VMware pour vous défausser de cette partie-là, c'est pas une bonne idée parce qu'ils ont des meilleurs avocats que vous et au final, ils vous diront que vous aviez pas passé le patch bidule. Donc si vous voulez vraiment économiser des sous pour pouvoir payer vos pénalités plus tard, faites de l'open source, ça vous coûtera moins cher. Payez des développeurs pour contribuer sur la partie open source et vous pourrez réagir plus rapidement en cas d'incident, puisque le développeur sera en interne dans la boîte pour corriger le bug. Bon, après, ça n'est qu'un avis.
Mais c'est ça, c'est un abonnement pour que eux payent les avocats pour quand tu te retournes contre eux, c'est tout le principe. Ça a toujours marché comme ça, les supports là, le 3/4 du temps, quand t'as des vrais problèmes techniques, ça vaut pas du tout le prix.
Voilà.
En open source, le support, ça vaut pas forcément le prix non plus.
Bah. Oui, mais comme tu le payes pas.
Si.
C'est ça.
Si, le support pour Xbox, j'ai travaillé dans des boîtes qui le payaient, et c'était une catastrophe.
Mais... Ah oui, mais c'est pour Xbox.
Non, c'est pas open source du coup.
C'est au final après en payant, c'est une petite digression sur le sujet, c'est l'open source, le fait de payer du support, c'est aussi on paye le développement et on soutient le projet.
Il y a oui, ça on aussi en a déjà beaucoup parlé, mais c'est quand je dis le support open source, c'est tu payes pas l'entreprise et tu vas discuter sur Discord, les forums et ainsi de suite. Et là, tu payes pas. Donc, comme tu payes pas, t'as le support qui va avec. Et moi, ça me paraît faire comme truc. Tu tombes sur les bugs avant, tu les aides. T'aides le développeur à identifier le bug et à le corriger plus rapidement parce que toi, t'as les compétences et t'acceptes le risque d'avoir ce bug-là en prod. Et si tu veux pas l'accepter, bah tu vas payer l'éditeur pour t'aider à ne pas avoir ce bug-là et à ce qu'il soit corrigé en priorité.
Mais tu payes du service autour de, du logiciel libre que eux développent.
Voilà.
J'ai réorganisé mon esprit. Alors, justement, je voudrais parler d'un truc qu'on n'a pas encore parlé, parce que pour l'instant, on parle de VMware utilisé par des boîtes finales. Moi, je voudrais parler de VMware utilisé par des fournisseurs cloud tels OVH, et je pense qu'il y en a d'autres qui proposent, par exemple, des offres cloud privé. Je me pose la question de justement ce changement licence perpétuelle versus abonnement. Est-ce que ça va avoir un impact sur elle? Et au final, parce qu'au final du final, ça va être le client de ces propositions-là, est-ce que ça va pas augmenter leurs tarifs? Et est-ce que ça va pas justement soit empêcher le développement du cloud privé, si je prends l'exemple d'OVH sur VMware, et donc ils vont peut-être passer sur autre chose, soit ça va augmenter les tarifs. Je sais pas. Parce que dès que tu rajoutes une couche, bah, le prix va augmenter. Je me pose des questions là-dessus. Je n'ai pas de réponse, hein, mais si vous avez des pistes, je suis preneur.
Bah, moi, je pense que naturellement, il l'a payé déjà, entre guillemets. Là, ça va juste être étalé autrement. Ça va peut-être revenir plus cher. Mais premièrement, ils vont avoir des avantages. Je pense qu'au niveau commercial, ils vont clairement pas payer le même prix que le prix public. Et derrière ça, je pense surtout que ça va faire comme pour Windows déjà et d'autres choses. C'est quand tu payes ta VM ou quand tu payes en fait ton infra, t'as un surcoût qui est associé aux licences. Moi, je sais que sur AWS, quand tu prends t'as du VMware d'ailleurs sur AWS, quand tu prends, il y a marqué, ta machine s'étend et t'as tant de surcoût pour payer le soft, quoi, à l'heure. Ou au mois, ou j'en sais rien, après ça dépend de ta facturation.
Très clairement, les entreprises comme ça ne payent pas du tout avec le même mode de facturation. À l'échelle où qu'ils ont, ils ne vont pas rentrer les numéros de licence un par un sur tous les ESX. Donc, ça va vraiment être une licence qui va être achetée de manière globale. Et en fait, on avait déjà plus ou moins le système qu'on avait avant. C'est juste, comme le disait Damir, une manière de le calculer différemment. Je suis même pas sûr que ça coûte beaucoup plus cher à court terme. Je pense pas que ça soit leur intérêt d'augmenter les tarifs en passant sur un modèle d'abonnement. Par contre, le fait d'avoir l'abonnement, ça va inciter les gens à prendre plus ou moins un niveau de support élevé et d'avoir des mises à jour plus régulièrement. Là où aujourd'hui, finalement, une grande boîte qui avait un modèle avec une licence perpétuelle, de toute façon, la licence, elle allait expirer au bout de la... quand il y aurait eu besoin de mettre à jour la nouvelle version, ils auraient été obligés de faire les mises à jour des licences. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? C'est quand on a la version N-1, on a une réduc sur la nouvelle version. Et puis voilà. Moi, je paye les licences régulièrement chez VMware. À chaque fois que je mets ma licence précédente, j'ai une réduction de 50%. Après, c'est une licence perpétuelle, mais de toute façon, c'est plus compatible avec le dernier OS, donc on est obligé de faire la mise à jour. Donc même si c'est pas une licence perpétuelle, on peut pas l'utiliser perpétuellement non plus. Donc bon.
Il y a un autre truc que je voudrais dire sur les licences perpétuelles versus les abonnements et à quel point l'abonnement c'est bien pour une boîte. Alors là, du coup, je me place côté VMware. C'est que c'est prévisible. Quand tu as une société, en fait, tu as envie d'avoir un chiffre d'affaires prévisible et de savoir ce qui va arriver dans les mois, années à venir. Une licence perpétuelle, tu sais jamais si elle va être renouvelée. Puisque bon, si j'ai bien suivi, t'achètes une licence pour une version N, et puis l'entreprise elle va peut-être pas acheter la licence pour la version N+1, alors qu'un abonnement, elle va le payer tous les mois ou toutes les années, en fonction de la tarification, et toi tu sais à peu près combien tu vas avoir d'année en année, puisque les abonnements sont renouvelés. Si tu connais ton taux de... Alors, les Anglais, ils utilisent le terme churn, mais ton taux de désabonnement, tu peux faire des calculs, et donc t'as une prévisibilité dans ta boîte et ça rassure finalement et ça permet de faire de l'investissement plus facilement. Ben, je vous propose que ce soit le mot de la fin du coup sur cette partie-là. Alors, si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps, tu peux nous soutenir grâce à un don sur Liberapay. Liberapay, c'est une plateforme de dons libre qui est gérée par une association française. C'est pour ça que je l'ai choisi. Tu trouveras le lien en description. Et si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. De toute façon, le podcast continuera à survivre, je pense, encore plusieurs années.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Puisqu'on est dans les rachats, ben on va continuer. Damir, toi, tu vas nous parler d'un autre grand qui rachète quelqu'un.
Oui, je vais vous parler d'un rachat pour changer. C'est pas le podcast de la variété au niveau des news, mais c'est un rachat qui me paraît intéressant tout de même. Je me sens que vous en avez parlé il y a quelques épisodes. On avait parlé de la solution Cilium qui a le vent en poupe. Donc pour rappel, Cilium, c'est quoi? C'est une solution qui est basée sur EBF et qui va en fait gérer la partie network, notamment sur des clusters Kubernetes. Et depuis quelques mois maintenant, c'est une solution qui est vraiment en train de décoller, qui est bien sûr à la CNCF et qui fonctionne plutôt bien. Je l'ai testé, c'est très cool. Autre chose intéressante et importante, cette solution, elle est très orientée sur la visualisation et l'observabilité. C'est-à-dire que le but est d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur son réseau, aussi bien pour des questions de sécurité que des questions, on va dire, de monitoring classique type performance. Et cette solution, en fait, qui est en train aujourd'hui, qui date pas d'hier, mais qui est en train en tout cas de bien fonctionner, est utilisée par plein de cloud providers. Scalaway, il me semble d'ailleurs, repose dessus par défaut. Mais en tout cas, la société qui est derrière ça s'appelle Isovalent. Et c'est une startup relativement classique qui avait justement, chose intéressante, eu Cisco qui était dans ses premiers investisseurs. Je crois même que Cisco était le premier investisseur. Et au mois de décembre, début mois de décembre, Cisco a annoncé vouloir acquérir et faire une offre de rachat pour Isovalent. Dans le courant du mois, ça s'est réglé assez rapidement. Il me semble que c'était le 20 ou le 21 décembre. Isovalent était officiellement racheté par Cisco. Donc c'est assez classique comme rachat. Vu qu'ils étaient déjà dans les investisseurs, on se doutait qu'ils suivaient un peu le truc de près et qu'ils allaient potentiellement tenter quelque chose. Là où c'est intéressant, c'est que ça mais potentiellement des inquiétudes, parce que comme on en parlait avant, un rachat, ça peut aussi avoir des zones d'incertitude sur les licences, etc. Et là, vu que c'est vachement intégré à l'univers Kubernetes, qui est lui-même assez rattaché à l'open source, autant dire que plusieurs personnes ont commencé à avoir quelques petits doutes. Pour l'instant, Cisco se veut très rassurant et assure que la société va globalement continuer normalement, on va dire, les activités, et qu'ils allaient continuer de travailler avec la CNCF et qu'ils allaient continuer à laisser le produit open source. Donc globalement, ils ont été extrêmement rassurants sur les communications. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans la réalité. Ça n'empêche pas que Cilium est, à mon avis, pour moi aujourd'hui, le CNI, un des meilleurs CNI qui existe sur Kubernetes. Donc c'est rassurant à voir comment ça va évoluer. On peut pas deviner ce qui va réellement se passer, mais moi je pense qu'ils ont pas forcément d'intérêt à le couler, à le fermer, surtout maintenant. Il faut qu'ils continuent encore à développer l'écosystème, etc. Sinon les gens ils vont juste switch très rapidement. Mais c'est un rachat en tout cas qui à mon avis assez intéressant et qui sera à suivre dans les mois qui viennent. Toi du coup Christophe, je sais que tu fais un peu de cube, t'en penses quoi de ce move un peu stratégique de la part d'une entreprise très moderne et récente et cutting edge comme Cisco? Avec un petit troll là.
Un petit troll. Moi j'ai fait un petit peu de cube en effet, on avait même sur la chaîne accueilli un live meetup sur Cilium, et Cilium c'est aussi la solution CNI qu'on utilise pour nos agrégats cube. Moi, j'avoue que je suis perplexe. Je sais pas quoi en penser, en fait, pour être honnête. Pour moi, Cisco, ça reste les routeurs, tu vois, physiques. Mais je sais qu'ils font pas que ça, mais tu vois, dans ma tête, c'est ça. Et je me dis, ah, oh, Cisco qui a arraché tes ovalettes. Alors, on reste dans le réseau, ça va, c'est. Je dis aussi ça parce que mon associé, il a une activité à côté qui fait de l'achat-revente et de l'installation de matériel Cisco chez les pros. Et donc, je voyais pas ce truc-là arriver. C'est, clairement, pour moi, c'était pas ça. Tu vois, je voyais plus Isovalent racheté par, je sais pas, un IBM ou autre, mais pas par Cisco. Bon. Et sinon, je sais vraiment pas quoi en penser. Mais je vais suivre tout ça. Bon, je vais passer la parole à Nicolas.
Ouais, moi, ça me paraît pas totalement déconnant parce que le monde de l'IT en général est en train de bouger et en train de se virtualiser de plus en plus. On parle pas mal de cloud, d'automatisation et on est là pour en parler. Et je pense que c'est pas totalement innocent le fait d'avoir investi dans cette société à l'origine et de l'avoir rachetée maintenant. On sait que Cisco s'intéresse quand même depuis quelques années à tout ce qui est SDN, donc Software Defined Network. Donc c'est le fait de virtualiser le réseau et je pense que c'est aussi ce qui les intéresse dans ce rachat-là, c'est d'avoir des compétences encore plus en interne pour pouvoir continuer à investir sur tout ce qui est SDN. Après, est-ce que c'est la possibilité de rajouter Cilium ou les autres outils dans la partie Cisco, donc dans leur hardware pour avoir une intégration encore plus fine, ou l'inverse, c'est que la partie Cisco puisse se mettre dans du software. Ça sera peut-être un mélange des deux. L'avenir nous le dira, mais je pense qu'il y a des trucs très intéressants qui vont arriver. Et moi, la dernière fois que j'ai touché à du matériel Cisco, il fallait se connecter à la ligne de commande et balancer toutes les instructions pour modifier la configuration du routeur, du switch, machin, etc. On sait très bien aujourd'hui que la plupart de ceux qui gèrent de l'IT veulent pouvoir le faire avec des outils comme Ansible, Terraform et ainsi de suite. Et avec un rachat comme celui-là, ça va peut-être leur simplifier les choses. Je vais peut-être passer la parole à Nida qui a peut-être un avis là-dessus.
Bah, pour moi, le produit Cilium, là pendant que je vous écoutais, je faisais une petite recherche parce que j'avais complètement zappé ce que c'était. Ne faisant pas de Kubernetes, je vois que le produit est quand même pas trop mal. Je rejoins l'avis de tout le monde que dans la logique de Cisco, c'est pas. Ça me surprend pas plus que ça, puisqu'ils ont déjà acheté des. Au niveau logiciel, ils ont quand même pas mal de choses, par exemple de la gestion d'IP, DNS. J'ai perdu le provider, ils ont racheté beaucoup de choses, ils font des logiciels de conférence WebEx. Ils ont toute une gamme de produits SDN en entreprise, que ça soit du en LAN ou en WAN, ou pareil pour le Wi-Fi, donc. Ou la téléphonie, c'est pas des choses qui me. Ça me surprend pas plus que ça. Après, à voir ce que ça va réellement donner derrière sur le projet. Est-ce que c'est juste de l'injection de d'argent dans le projet ou est-ce que derrière il va y avoir une intégration un peu plus. Une version open source et une version un peu plus liée à l'écosystème Cisco, et ça me fait un peu plus peur parce que Cisco est quand même un petit peu à vouloir faire sa sauce dans son coin et à oublier les autres, et ça me poserait un peu plus un problème parce que Cisco vas-y Damir.
Ouais, vas-y, non mais sinon vas-y,
parce que Cisco dans le monde du réseau donc j'en avais parlé brièvement sur Twitter, c'est que dans le monde des switches, par exemple, il y a toute une gamme de switches modifiables où on peut créer son propre OS de switch, et Cisco reste de son côté, fait sa tambouille, alors que le reste du marché est en train d'évoluer et eux restent dans leur on va dire dans leur petit monde parce qu'ils ont énormément de parts de marché. Et voilà, j'ai juste un peu peur que Cisco veuille enfermer les utilisateurs dans son écosystème. À toi, Damien.
Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup du matériel, mais si on fait un petit dézoom, pas oublier que Cisco, ils ont quand même beaucoup à racheter d'entreprises qui étaient plus orientées software. Il y a Splunk qui a été racheté par Cisco l'année dernière, du coup. Il y a eu aussi OpenDNS qui avait été racheté. Donc, il y a vraiment il y a eu plusieurs acquisitions sur ce terrain-là. Donc, je pense que aujourd'hui, leur but, c'est un peu de sécuriser, le poste matériel, si j'ose dire, dans le sens où le matériel, ils vont continuer à investir dessus, ils vont continuer à faire des choses dessus, c'est quand même leur cœur de métier. Mais ils essayent aujourd'hui de développer ces points-là qui sont aujourd'hui ceux qui ont le plus de potentiel de réussir et de rapporter du cash flow à l'entreprise. Et là, je pense, en partie, c'est un produit qui a un fort potentiel. Pour ça que je pense pas que leur but soit spécialement de changer la vision du produit. Mais après, on peut imaginer l'intégration avec d'autres produits qu'ils ont rachetés. On peut imaginer qu'à terme, ils vont essayer de faire un écosystème assez cohérent qui aura été très réseau et sécurité.
À voir, l'avenir nous le dira. Bon, alors, si tu nous écoutes, et on a parlé de création de contenu et de logiciels libres plus tôt dans le podcast, sache que ce podcast-là que tu es en train d'écouter, et cette vidéo YouTube que tu es peut-être en train de regarder, c'est un produit libre, un contenu libre, puisqu'il est diffusé en licence libre, CC BY SA. Le CC BY SA, c'est une des licences Creative Commons qui permet justement la réutilisation du contenu. Tu peux le découper, le partager, tu peux même le remonter si tu as envie, tu peux l'intégrer à d'autres contenus. La seule chose qu'il faut que tu fasses, par contre, c'est nous citer. Tu dis que ça vient des compagnons du DevOps, tu mets le lien de l'épisode. T'es pas obligé, mais si tu viens nous dire en plus « Hey, j'ai utilisé votre podcast, c'est cool, merci », eh ben, ça nous fera énormément plaisir. Tu peux aussi le partager tout simplement, parce que faire connaître un podcast, c'est très très dur. Et Damir en sait quelque chose aussi. Alors, moi, je vais te parler... Et je vais partager avec toi quelques réflexions sur les récents changements chez HashiCorp. On en a déjà parlé, mais si tu débarques dans le monde du cloud et du DevOps, tu te demandes peut-être ce que c'est qu'HashiCorp. Donc c'est aussi le point pour te rappeler que HashiCorp, c'est un acteur majeur dans notre univers DevOps. Notamment, on lui doit les outils comme Vagrant, HashiCorp, ça a commencé par Vagrant, qui permet la création et la configuration d'environnements de développement plutôt légers, reproductibles, lancement en ligne de commande, c'est portable, bref, c'est vachement bien quand tu veux développer de l'infrastructure. On lui doit aussi, et surtout, Terraform, qui permet l'automatisation de l'infrastructure. Tu peux provisionner et gérer tes ressources dans n'importe quel fournisseur cloud. Enfin, je dis n'importe quel. Il y en a énormément. Alors, on pourrait pas tous les lister ici. C'est l'outil par excellence pour faire de la phrase code. Mais aussi Vault, qui permet de sécuriser, stocker, contrôler l'accès aux jetons, mots de passe, etc. Tout ce qui est protection des secrets et autres données sensibles. Mais il y a tout un tas d'autres produits HashiCorp, donc va voir sur leur site ce qu'ils proposent. Bon, on a déjà parlé justement du changement de licence de Terraform dans Actu DevOps de septembre 2023. Ça a eu plusieurs implications assez surprenantes, puisque depuis, on a vu arriver OpenTofu, qui est le fork de Terraform, ça y est, on a le nom officiel, c'est OpenTofu, puis OpenBao, le fork de HashiCorp Vault, je crois qu'ils sont restés dans la nourriture asiatique pour mon plus grand bonheur, à mon avis, il va y en avoir d'autres. Néanmoins, c'est au détour d'un post LinkedIn de Dan Lorenk, que je ne connaissais pas, que j'ai appris plus de choses sur cette affaire de licence. Alors, accroche-toi, c'est un peu technique. Donc, il nous dit qu'HashiCorp a toujours mis en avant un risque spécifique dans ses rapports trimestriels. Alors, ces rapports, il les publie parce que HashiCorp est une entreprise cotée en bourse et donc il publie des rapports trimestriels. Notamment, ce risque, c'était la facilité pour les concurrents d'entrer sur le marché à cause des licences open source. Bon, en effet, quand tu as un coût d'entrée, en fait, quand tu crées un service SaaS et quand tu crées un service SaaS basé sur les produits HashiCorp, c'est réduit parce qu'il y a les licences libres. C'est vrai pour tous les produits libres. Je suis bien placé pour en parler puisque nous, on se base sur GitLab pour créer un SaaS. Et on n'a pas eu à développer une forge complète. Donc, dans ce rapport, on lisait notamment la chose suivante, et je te le cite en français, mais je te le cite quand même. En raison des droits permissifs accordés aux tiers dans le cadre de nos licences, les barrières technologiques à l'entrée des marchés sur lesquels nous sommes présents sont limitées. Et il est, et il peut conduire et il peut continuer à être relativement facile pour les concurrents, y compris les opérateurs de cloud public, d'entrer sur nos marchés et de nous concurrencer. Ce que Dan nous apprend, c'est que dans le dernier rapport, cette mention de risque a disparu. À la place, on n'a pas un risque, mais une discussion sur le changement de licence. On lit maintenant. Nous avons adopté une nouvelle licence pour nos produits libres de l'édition communautaire en août 2023, qui impose certaines limites à l'utilisation concurrentielle. Mais les droits permissifs de nos licences open source avant ce changement permettent à des tiers d'offrir et de développer des versions open source de nos produits telles qu'elles existaient avant le changement de licence. Ces versions antérieures pourraient permettre à des concurrents, y compris des opérateurs de cloud public, d'entrer relativement facilement sur nos marchés et de nous concurrencer. On l'a vu, il y a eu des forks de leurs produits. Donc ce changement de licence semble quand même moins viser l'augmentation des revenus, puisque c'est ce que pas mal de gens pensaient, mais plutôt la réduction des risques pour l'entreprise qui est cotée en bourse. Et ça, Dan, c'est selon lui la vraie raison derrière ce changement de licence. Mais bon, il y a d'autres changements chez HashiCorp, et je voulais vous parler de Michel Hashimoto. Michel Hashimoto, c'est le cofondateur d'HashiCorp, le Hashi dans HashiCorp, c'est lui. Après plus d'une décennie à la barre de la société, il a décidé de quitter le navire. Il a écrit une lettre d'adieu et Michel, il y exprime sa fierté, puisque cette lettre, elle est publique, il exprime sa fierté de ce qu'HashiCorp a accompli et souligne sa vision d'une entreprise durable et capable de prospérer sans sa présence. Bon, ce qui impressionne le plus là-dedans, c'est comment il a vu grandir ses idées initiales. Parfois, elles ont été controversées et parfois, elles sont devenues des standards dans l'industrie. On pense notamment au HashiCorp Configuration Language, le HCL, qui est un excellent exemple de cette réussite parce que, moi, je m'en souviens très bien, il était assez critiqué à ses débuts. Bon, alors pour moi, le départ de Michel, c'est vraiment plus qu'un changement en fait de personnel dans l'entreprise. C'est la fin d'une ère pour HashiCorp et le début d'une nouvelle. HashiCorp, pour moi, c'était vraiment intimement lié à sa personnalité à lui. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que va devenir la société. Mais bon, je suis quand même impatient de voir ce que l'avenir leur réserve. C'est sûr, ça a changé quelque chose quand j'ai appris ça. En tout cas, il y a un truc qui s'est cassé dans mon lien à cette société que j'aime beaucoup. Alors, chapeau bas, Michel, et bonne chance dans tes nouvelles aventures. Pour HashiCorp, on va continuer à regarder de près ce que fait ce géant du DevOps, parce que mine de rien, j'ai cité trois outils, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, bah, je vais me tourner vers vous et vous demander ce que ça vous évoque, tout ça, parce que finalement, HashiCorp, c'est une des entreprises qui a vraiment changé notre vision du DevOps et du cloud aujourd'hui. Qui veut prendre la parole en premier?
Forcément moi. Bah ouais, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que avec le départ de Michel, il va falloir que HashiCorp change de nom, donc ça va foutre le bordel dans pas mal de trucs. Plus sérieusement, bon, on a déjà beaucoup parlé du changement de licence. Vous connaissez mon point de vue. Si vous avez oublié, réécoutez les épisodes. Le départ de Michel, ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait, il était CEO depuis le début de la boîte et il y a 2 ou 3 ans, il avait déjà quitté le poste de CEO pour redevenir développeur. Donc la boîte a continué à tourner. Je pense qu'il est resté dans la boîte en tant que développeur plus pour des questions légales, pour garder ses parts, machin, etc. Mais finalement, la boîte a continué à tourner. Elle n'est pas partie en cacahuète. Ils ont continué à faire des choses bien. Peut-être que le changement de licence est une des raisons de son départ. Ça, on ne le saura jamais. Mais bon, après quelques années à avoir travaillé d'arrache-pied, je pense qu'il a envie de prendre sa retraite. Et vu la valeur des parts de sa boîte, je pense qu'il ne va pas avoir besoin de travailler jusqu'à la fin de sa vie. Donc, bon, je pense qu'il faut continuer à regarder tout ça. Bon, bah, il y aura probablement des forks. J'ai déjà exprimé mon inquiétude par rapport aux forks et à la segmentation du marché. Donc, bon, à la fois, j'espère que les forks vont se planter parce que les gens vont pouvoir se concentrer sur la version mainstream. À la fois, j'espère qu'ils vont marcher pour qu'il y ait un petit peu de bonne concurrence avec les produits officiels d'HashiCorp. Et puis voilà. Bon, À suivre. Damir, vu Tamou, tu veux ajouter quelque chose ?
Oh, y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ouais, c'est très symbolique et qu'en soi, l'effet immédiat va pas être énorme. Après, HCorp, ça reste quand même, à mon sens, une entreprise qui est très importante, comme tu disais, Christophe, dans ce qu'a été le DevOps, en tout cas la manière dont ça a évolué. Ils ont fait beaucoup d'outils, hein, beaucoup qui sont méconnus parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés. Je pense notamment à Bundery, je pense à des outils de ce type-là, mais qui sont très bons quand même, ou même Nomad. Mais quand on y réfléchit, il y a quand même trois de leurs outils qui ont juste explosé. Et aujourd'hui, c'est devenu de facto des standards. Que ce soit Terraform, que ce soit Packer, que ce soit Vault, c'est des outils. Aujourd'hui, j'arrive dans une entreprise, tu me demandes comment faire de l'infra as code, hors solution propriétaire cloud, type cloud, cloud trail, etc. Bah, j'ai pas trop d'autres solutions, on va dire. Et pareil pour Packer, pareil pour Vault. Ce qui, à mon sens, était déjà quand même quelque chose de fou. Qu'une entreprise à elle seule, en fait, est arrivée à très bien comprendre les besoins du DevOps et à très bien les implémenter pour à chaque fois faire des outils qui adressent bien au bon marché avec les bons outils, les bonnes manières, même si oui, le HCL, ça a été un peu controversé à des moments, ça l'est encore sur certains points. Mais c'est normal, c'est sain. Mais en tout cas, que ça soit assez bon pour que ça s'intègre et que tout le monde l'adopte, entre guillemets, bah, en tout cas, il y a un sacré tour de force et là-dessus, je leur dis bravo. Pour ce qui est après des changements de licence, je sais que vous en avez déjà on en a parlé, moi il me semble que j'étais pas là. Moi je pense toujours, et j'ai déjà dit plusieurs fois, que l'open source c'est pas simple. C'est compliqué de faire du business dans l'open source, c'est compliqué d'être rentable, c'est compliqué pour plein de raisons. Là effectivement ce qu'ils avaient c'était un risque. Je pense qu'ils avaient un problème de rentabilité aussi, ce qui explique le changement de modèle au niveau de la facturation de leur cloud en fin d'année qui a été quand même assez violent. Mais globalement, c'est compliqué. Ils n'ont pas arrivé à trouver leur équilibre, je pense. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire ça. Moi, ça me paraissait un peu prévisible que des gens allaient fork. Est-ce qu'ils parient sur le fait que les forks vont pas être maintenus? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils parient plus sur le fait que les entreprises, entre guillemets, à minimum grosses et sérieuses, utiliseront pas les forks parce que ils voudront avoir du support, etc. Et ils s'en foutent des petits clients. Moi, c'est pas eux qui leur apportent du pognon. Si vous êtes une boîte de 30 personnes, vous utilisez un peu, entre guillemets, leur solution, que vous soyez sur OpenTofu, sur OpenBao ou leur solution en SaaS, ça leur change pas la vie. Par contre, demain, vous êtes un client du 440 français, là, ça les intéresse beaucoup plus. Donc, je pense qu'ils vont laisser faire et ils vont essayer de segmenter le marché comme ça. On va se retrouver des gros clients qui voudront le support, comme on en a déjà parlé, et qui voudront surtout des outils très intégrés, etc., et très suivis. Ils vont aller chez HCorp directement. Les autres, ce sont les forts qui seront relativement proches. Après, à voir si un jour, on va avoir une divergence telle que ça va être des outils totalement différents. Mais je ne suis pas sûr.
Je vais revenir rapidement sur deux sujets. Le HCL, tous les outils d'HCorp ont toujours été compatibles avec plusieurs formats de fichiers, notamment JSON et je ne sais plus quoi d'autre, peut-être du YAML tout simplement. Donc, le HCL permettait simplement de rajouter des fonctionnalités de templating qui manquaient sur les deux autres formats. Et notamment la gestion des boucles, des ifs et ainsi de suite, qui ont toujours été compliqués à faire en JSON ou en YAML. Et ensuite, sur la partie segmentation CAC 40 ou petite startup, je pense que c'est même pas un sujet, puisque la licence aujourd'hui telle qu'elle a été définie, la BSDL, ou BSL, je sais plus, peu importe, elle est là pour empêcher les cloud providers de monter des offres concurrentes à celles d'HCorp. Si tu développes une application pour uberiser la livraison des sushis pour que Christophe puisse les commander instantanément, c'est pas le marché qui les intéresse. Donc, tu peux très bien continuer à utiliser la version open source pour délivrer tes sushis, c'est pas un problème. Le problème, c'est un petit peu comme MongoDB et je sais plus Elastic et ainsi de suite, qui se retrouvaient avec des offres SaaS vendues par par différents cloud providers qu'on ne va pas nommer et qui se faisaient du beurre sur sur leurs produits sans prendre de support, sans contribuer et assez souvent en gardant les modifications open source en interne puisque ils avaient les ressources pour maintenir un fork en interne, parce que maintenir un fork sur du long terme, c'est toujours bien compliqué, et c'est des boîtes qui se permettent de le faire. Mais bon, voilà.
Mais je dirais juste un petit mot, on a déjà eu quand même un précédent d'une grosse boîte qui était très impliquée dans DevOps, qui a mis, on va dire, la base de beaucoup de principes et qui a passé son produit de plus enfermé sur certaines parties, et qui aujourd'hui a plus de mal et plus dans son époque fast, c'est Docker, hein. Pendant longtemps, Docker, ça a été le premier truc vraiment tagué DevOps, entre guillemets. Ils ont perdu leur fame, ils n'ont pas arrivé à trouver de business model qui était équilibré. Et on finit aujourd'hui, en fait, avec un marché où ils ne représentent plus énormément d'un point de vue part de marché, quoi. Si on regarde où tournent des conteneurs en prod, il y en a combien qui tournent sur Docker? Vraiment 1%, peut-être 2%, plus beaucoup. Tout le reste, c'est sur de l'OCI ou des choses comme ça. Moi, des trucs standards OCI. Ouais, c'est juste pour donner un petit exemple auquel je pensais.
Mida, qu'est-ce que ça t'évoque ? Vas-y.
Moi, à titre personnel, j'utiliserai tout le temps les outils de HashiCorp pour les raisons qui ont été évoquées de support. Je dis pas que la Linux Foundation fait... puisque les forks qu'on a cités tout à l'heure, c'est la Linux Foundation, fassent mal les choses, mais... on va pas changer quelque chose qui, par pur dogmatisme, parce que ça, au final, le changement de licence n'a rien changé pour moi dans mon quotidien. C'est une réalité, ça change strictement rien. En dehors d'un dogme sur le logiciel libre, en prod, je m'en fous.
Merci. Du coup, je vais reprendre la parole. Alors, pour rassurer Nicolas, je crois, Mitchell, en ce moment, il est en train de travailler sur un nouveau terminal. En tout cas, c'est ce qu'il annonce sur Twitter, X. J'arriverai jamais à m'y faire. Je pense pas, par contre, à titre personnel, qu'il s'arrête de travailler, qu'il prenne sa retraite. Je pense que c'est un entrepreneur qui va continuer à créer des boîtes. Je comprends son envie de partir. Mais moi, c'est vrai que ça me fait un truc, parce que pour moi, HashiCorp, c'est... En effet, c'est lui. C'était l'image officielle que j'avais. Mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé de son retrait, de ses positions stratégiques à la direction, je crois, quand c'est arrivé. En tout cas, on va continuer à suivre HashiCorp, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Puisque vu tous les outils qu'ils ont et qu'ils ont créés, je pense que ils vont continuer à être hyper présents dans le monde du DevOps. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, si toi aussi, tu veux avoir le swag des compagnons comme moi en ce moment, tu peux t'inscrire, puisque je vais lancer la boutique pour pouvoir acheter t-shirts, tasses et autres trucs cette année. Il suffit que tu t'inscrives sur la liste d'attente si tu veux, hein, mais si tu t'inscris sur la liste d'attente, tu seras prévenu au moment où je vais lancer la boutique, mais surtout, tu auras une réduction au lancement. Et c'est aussi une manière de soutenir le podcast, puisque bon, les bénéfices vont aller directement dans le podcast et dans le paiement des outils. Justement, en parlant des outils, on va parler d'outils. Et Nicolas, tu vas nous parler d'un premier outil.
Oui, ça va être un épisode un peu compliqué sans René qui nous fournit 99% des outils d'habitude. Moi, je vais vous parler de Glance. C'est développé par un Français aussi. C'est une alternative à HTOP et compagnie. Ça vous permet d'avoir des métriques sur vos serveurs. Et l'avantage, c'est qu'il est très léger à installer. Je crois qu'il tourne toujours en Python, et un autre intérêt, c'est qu'il a un mode serveur, Donc, vous pouvez lancer le serveur à distance et vous connecter via un socket pour visualiser ça sur votre machine, que ça soit dans un terminal ou via d'autres widgets dans votre OS favori. Voilà, à essayer.
Ça n'a pas l'air de faire plaisir à tes compagnons à quatre pattes, Glantz.
Je suis désolé, ils sont en train de se battre, c'est l'heure.
Moi, je ne connaissais pas cet outil. Enfin, je pense que je l'avais vu passer, mais je me pose la question de son empreinte, parce que comme il est écrit en Python, moi, je n'aurais pas écrit un outil comme ça en Python, j'aurais fait comme René, je l'aurais écrit en Rust, ou en C. Est-ce que tu as une idée de combien ça représente, notamment si tu l'installes au niveau serveur avec son interface, parce que moi, à titre personnel, j'installe plutôt NetData. Est-ce que tu as une idée là-dessus?
Alors, c'est plus un outil à la top, donc c'est du one shot. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il va remonter beaucoup de métriques sur une seule page, et surtout des métriques où il va montrer les points de congestion, que ça soit les I/O, la mémoire, et ainsi de suite, avec quelque chose de très visuel. Si vous regardez les screenshots, c'est rouge quand tout va mal et c'est vert quand tout va bien. Moi, c'est plus ce truc-là qui a d'intéressant. Alors, effectivement, il a été écrit en Python, mais à l'époque, Go n'existait même pas encore. Donc, c'est le choix du Python. Et finalement, est-ce que l'overhead sur un outil comme ça est vraiment important? Je crois qu'il utilise la lib PS, je sais plus quoi, qui a l'implémentation de toute la collection des métriques qui est faite en C. Donc finalement, la partie Python, elle est là, c'est epsilon par rapport à la consommation du truc. Et je vais arrêter de parler pour aller calmer les chiens.
C'est pour le serveur Flask sûrement Python.
C'est possible, en effet. En tout cas, s'il y a des dépendances qui sont écrites en C, ça doit être assez léger. En tout cas, c'est un outil que je testerai bien. Nida, Damir, un avis là-dessus? Vous connaissiez?
Moi je connaissais rapidement. Mais un truc que j'ai jamais essayé parce que installer un truc en Python pour voir le htop, c'est bien, mais généralement quand j'ai un problème, j'ai d'autres choses à faire avant ça et du coup je le fais jamais. Au moins si c'était un Go, je ferais un petit wget du binaire, ça irait plus vite. Mais enfin bref, je digresse. Mais il parle d'export notamment vers de l'influx DB, etc. Je sais pas comment ça se passe, genre tu le lances quand t'as un problème entre guillemets ou tu veux suivre quelque chose, il te fait une base et tu l'exportes, ou c'est vraiment fait pour tourner en démon cette partie?
Alors je l'ai jamais essayé en mode démon et dans tous ces exports là, mais j'imagine qu'il y a un mode serveur où tu dois pouvoir connecter ton Prometheus dessus en mode exporteur ou pousser ça dans un FluxDB. J'avoue que j'ai jamais essayé. Moi, je l'installe dans des virtualenv en Python, puisqu'il y a toujours un Python sur toutes les machines que je gère. Un virtualenv, un pip install, et ça permet de visualiser très rapidement l'état de la machine. Un autre truc aussi, c'est que quand je l'utilisais, htop n'existait pas encore, ou alors n'était pas installable sur les machines, puisqu'il fallait compiler le binaire, le transférer, etc. Là, c'est un pip install, et c'est très rapide. Et encore une fois, ça permet de visualiser facilement, rapidement. C'est tout.
Je vais prendre la suite. Moi, je l'ai utilisé à une époque, cet outil. Quand le produit était en cours encore de développement, ça remonte il y a quelques années. Parce qu'on n'avait pas beaucoup entre top et htop, on n'avait pas d'alternative qui permettait de concaténer autant d'informations en console. Depuis qu'on a eu Bytop et ses dérivés en C, j'ai plutôt tendance à utiliser ces alternatives-là. J'ai abandonné d'utiliser Glance, mais l'outil reste quand même super super pratique, comme le disait Nicolas. C'est quand il y a un souci, c'est en rouge, ça pète et c'est très visuel. Mais c'est pas un outil. Malheureusement, c'est un outil que moi je n'utilise plus.
C'était juste mon outil dinosaure de la semaine. Le Minitel marche plus, donc je me suis rabattu sur Glance.
Bon, moi je vais vous parler d'un autre outil. C'est Crane. Je pense que ça se prononce comme ça. Crane, c'est un outil qui permet la manipulation d'images de conteneurs. C'est à la fois une librairie et un outil en ligne de commande. Du coup, on peut faire plein de trucs avec. Hein. On peut lister les configs d'une image, exporter le file système, lister les tags rapidement d'une image, valider le format d'une image, etc., etc., etc. C'est un outil de plus pour manipuler vos images de conteneurs. Moi, j'ai encore pas utilisé, mais je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser. Peut-être aussi de le mettre dans des intégrations continues pour faire des petites choses. Je ne sais pas. À voir. Est-ce que vous connaissiez justement cet outil Crane?
Ouais, pour le coup, non, mais ça a l'air intéressant. En plus, c'est du Go, donc moi, je vais mettre ça de côté.
Oui, c'est développé.
Ah bah voilà, tout de suite. C'est pas en Python, donc tu peux l'essayer. Bah, d'accord.
Python a fatigué.
Il me semble avoir joué avec, mais je sais plus.
Ne faisant pas de Docker, donc non.
Eh bien, écoutez, on va passer à l'outil de Damir.
Oui, je vais parler d'un outil et d'une lib. Comme ça, je fais le DevOps, hein, un outil côté Ops et un outil côté Dev. Le premier outil, c'est un outil qui se présente comme une alternative à Fail2Ban, c'est Reaction. C'est pas un outil qui a l'air non plus ultra avancé pour l'instant en termes de développement, c'est assez récent. Ça a été fait par un Français qui l'a présenté sur LinuxFR. C'est un outil qui se veut plus simple à administrer que Fail2Ban. On va pouvoir déclencher des actions en fonction de patterns dans les logs. Ça a l'air bien plus lisible et bien plus efficace, pour moi, efficace au niveau configuration. Donc moi ça m'intéresse bien, j'ai pas encore testé, je le testerai sûrement à l'occasion. Et c'est développé en c'est vrai que j'ai pas dit en quoi c'était développé, c'est du C et du Go il me semble. Voilà, c'est du C et du Go parce que Go c'est très bien. Donc du coup ça me paraît intéressant comme piste, à voir s'il va continuer à le développer, s'il va arriver à créer une communauté autour de ça. En tout cas, moi je trouverais ça bien cool que ça crée une petite communauté sur un petit outil français qui peut être très sympa. Je ne sais pas si vous avez vu la news aussi ou si vous avez peut-être déjà testé.
Alors moi, je ne connaissais pas. Ça a l'air sympa comme tout. Je ne suis pas encore prêt à remplacer mon Fail2Ban. Par contre, je vois en effet la config. Ça a l'air d'être... Alors on peut faire du YAML ou du JSON, j'ai l'impression. Donc c'est bien, ça va plaire aux deux communautés. Moi, je suis team YAML, donc, parce que je trouve que le JSON, c'est juste... comment dire, compliqué à écrire quand on est un humain. Bref, par contre, je me pose des questions quand même sur... alors, c'est très bien, ils ont utilisé Framagit pour héberger le code, mais je me pose toujours des questions quand on est sur des forges autres. Et c'est bizarre pour moi de dire ça, mais quand tu promeus un outil libre, être sur une forge qui n'est pas une des grandes forges, est-ce que tu vas attirer une communauté, justement? Parce que pour l'instant, GitLab n'a pas de fédération, à mon grand désespoir.
Il faut bien commencer un jour.
Peut-être. Le jour où il y aura une fédération GitLab, je pense qu'on aura un vrai truc qui va se passer.
Oh, si ce jour arrive. Mais c'est vrai que c'est un problème. Moi, si demain je devais créer un outil open source, même si je suis pas leur plus grand fan, je pense que je le mettrais sur GitHub. Juste parce qu'aujourd'hui, en termes de réseau, c'est ce qui est le plus développé. Hein. Moi, il y a plein d'outils que je vois passer en suivant mon feed GitHub où il me dit « Tiens, il y a machin qui a like ça ». Et, ah bah tiens, c'est une lib qui est intéressante. Je crois que la lib d'en dessous, je l'avais vue la première fois sur GitHub, justement, dans mon feed.
Clairement, ouais, GitHub, c'est vraiment un réseau social plus que GitLab. GitLab, c'est plus un outil de productivité pour moi. Et il y a vraiment le truc open source, tu vas sur GitHub, même si ça m'embête, parce que c'est pas un outil libre en lui-même, GitHub. Mais bref, Reaction, ça me paraît intéressant quand même.
Et du coup, on va passer à la lib Go qui est du coup intéressante. Moi, je sais que j'aime bien le Go pour écrire des petites clis. Et dans les clis, il y a un cas qui arrive assez régulièrement, c'est d'avoir des besoins en termes de prompt interactif. Et plutôt que faire un truc tout basique et un peu moche, on va pas se mentir, on peut faire des trucs un peu fancy avec certaines libs. Et il y a une lib qui s'appelle U, et qui est du coup une lib en lib Go qui vous propose plein de petites formes et de petits formats/slash formatage pour pouvoir faire des choses un peu sympas en termes d'affichage et faire quelque chose de très agréable. Donc je l'ai testé rapidement, c'était à la base juste pour faire une liste, défiler une liste et choisir en fait un élément. Mais j'ai trouvé ça super bien foutu, super propre, et c'est, je suis le premier à dire que lui entre guillemets sur ce genre d'outil, c'est pas le plus important. Mais faut avouer qu'en une nuit un peu sympa, ça donne toujours un peu plus envie.
Ouais, je vois que c'est en plus l'équipe Charme qui fait ça. Charme, oui. À qui on doit Glow, Gum et autres petites choses vraiment hyper sympas. J'ai l'impression qu'ils font un travail de fou furieux sur tout ce qui est l'ergonomie autour de la clé. Je pense que c'est vraiment bien ce qu'ils font et ils doivent continuer. Vraiment, vraiment.
Je crois qu'on avait...
Vas-y.
Je crois qu'on avait parlé un de leurs outils dans un des outils de l'épisode précédent. Et ouais, c'est super joli. Et utilisez des trucs comme ça pour vos clés parce que c'est toujours le parent pauvre. Et au final, vous allez y passer des heures avec, à moins de vouloir développer une IHM pour les développeurs Windows. C'est vous qui allez souffrir. Donc, utilisez des trucs comme ça où ça vous fera plaisir de l'utiliser.
Bah, moi, je ne dev pas, mais en tant qu'utilisatrice, ce que j'ai vu, c'est vrai que ça permet, je dirais, une adoption d'un produit. S'il y a une clé qui est designée comme ça, c'est... mes rétines sont chatoyées.
C'est vrai qu'en plus, c'est super joli, j'avoue. Eh ben écoute, Nida, t'avais la parole et c'est toi qui nous apporte le dernier outil.
C'est pas réellement un outil, c'est un truc. Si vous embêtez au travail, vous savez pas quoi faire. Il y a un petit logiciel qui s'appelle Termtris, donc qui est un Tetris utilisable dans une console SSH. Donc vous faites un clone du Git, vous compilez et puis vous jouez à Tetris sur vos serveurs si vous avez du temps à perdre. Lorsqu'un patch doit passer, par exemple.
Mais rassure-moi, on peut aussi l'utiliser en local sur nos machines. Ça marche dans un terminal sans forcément SSH.
Oui, on peut l'utiliser en local. Sur le GitHub, il est indiqué comment compiler. On peut l'installer aussi sur du DOS, du moins que Windows. C'est le petit outil qui est pratique, qui est très minimaliste et moi qui me plaît bien. C'était juste pour le côté. Un peu Madeleine de Proust de tous ceux qui ont eu une Game Boy première génération.
Et puis quand on vient de voir et qu'on te demande, mais t'es en train de faire quoi? Je défragmente le disque, t'inquiète.
Voilà. Mais c'est pour ceux qui veulent s'amuser, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est sympa.
Alors ça a un intérêt parce que déjà c'est un programme libre, c'est écrit en C et en assembleur, donc si on veut apprendre le C ou au moins essayer de se frotter au C, puisque moi je suis un ancien développeur C, ça peut être intéressant justement d'aller voir tout ça et de voir le code, comment c'est écrit, etc. Parce que comme en plus c'est du terminal, on peut interagir dessus, et etc. Ça peut être, à mon avis, un petit truc sympa pour apprendre justement un langage comme le C. Puisque je pense que c'est tombé en désuétude, mais typiquement, à mon avis, ça va continuer à être utilisé le C pendant encore longtemps, je pense.
Et puis un petit hook, quand il y a un Terraform Apply qui se lance et qui te lance une fenêtre pour faire ta petite partie de Tetris en attendant, ou quand tu builds une image Docker, ou tu lances le déploiement d'une machine qui est un peu lente, ça occupe.
Tout à fait. Eh bien, merci encore pour tous ces petits outils. Alors, toi, si tu nous écoutes, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps, puisque la communauté, il y a aussi un forum où on peut discuter. Tout à l'heure, on parlait, je ne sais pas si on parlait en off ou dans le podcast du forum versus chat, je crois que c'était en off. Eh bien, il y a un forum sur lequel on est toutes et tous. Tu peux venir discuter de tes problématiques, partager tes outils aussi, puisqu'il y a un long post sur les outils que René maintient assez généreusement. Tu retrouveras tous ces outils là-bas. Donc, viens, viens t'inscrire. C'est hyper simple. Tu vas sur compagnon-devops.fr, tu rentres ton email, ton prénom, et puis pouf, tu reçois une invitation pour créer ton compte sur le forum. Encore une fois, merci à tous les trois pour votre temps, votre animation et votre bonne humeur en ce début d'année. J'espère vous retrouver à nouveau au fur et à mesure de l'année. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Et je vais commencer par Nida. Nida, c'est à toi de commencer pour le mot de la fin.
J'ai pas grand chose à dire à part passer une excellente année 2024 et que tout va réussir.
Haha, la parole n'est pas passée. Allez, Damir, à toi la parole.
Bah, c'est pareil, très bonne année, amusez-vous bien. De nombreux side projects qui arrivent au bout ou pas. L'essentiel, c'est de vous amuser. Et du coup, bah, éclatez-vous.
Et bah, je vais conclure en vous souhaitant également une bonne année 2024 avec plein de rachats de sociétés, plein de changements de licences et surtout plein de piratage. Wouhou !
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.